Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Nathalie Janson, professeur à l'EOMA Business School, Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés qui a publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Et François Eckhall, fondateur de FIPECO.fr, réaction de vision. On parle souvent des super profits réalisés sans effort par les grands groupes. Pourquoi vous ne parlez jamais des super profits de l'immobilier où les boomers réalisent quelquefois des fois 10 sans effort? Bon. Et puis, il y a cet auditeur qui s'appelle PHF. Il considère que c'est l'État qui doit faire les efforts sur les dépenses et pas l'économie en augmentant les recettes fiscales. Voilà. Il faut moins d'État et plus de liberté. 3 points de PIB à trouver entre 2024 et 2027. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas si Bruno Le Maire doit s'inspirer de la note de FIPECO. Est-ce qu'on peut y arriver ? Enfin, est-ce qu'on peut réussir les défis monumentaux qui sont devant nous, Benjamin, si on ne monte pas les impôts ? Et vous avez le droit de me dire non, qu'il y a peut-être des solutions sans forcément monter les impôts. Bah, certains vous diront la croissance est une solution.
Moi, j'ai presque envie de dire que c'est deux questions qui sont interreliées, mais qui aussi doivent être traitées de manière indépendante. Pourquoi ? Parce que remodeler la fiscalité, donc c'est-à-dire revenir à l'impôt sur le patrimoine, revenir à l'impôt sur la fortune, etc., moi, me paraissent des nécessités absolues dans un État moderne.
D'accord.
Mais absolue. C'est-à-dire que le niveau des inégalités dans lequel on est,
on n'a pas un niveau d'inégalité en France monumental après redistribution, on le sait bien. On n'a pas à dire qu'on est, on n'est pas les États-Unis.
Mais
on a un niveau de prélèvement obligatoire record et on n'a pas un niveau.
La période, on peut pas y échapper. La période la plus favorable de toute l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire les Trente Glorieuses, c'est une période pendant laquelle on avait toute une série de choses en place, mais en particulier un impôt progressif et un impôt sur le patrimoine. Bien.
Là encore, l'impôt sur le patrimoine, hein, l'immobilier.
Vous savez qu'il est dérisoire.
Ah bah il est dérisoire.
Écoutez, parlez-en à Piketty.
Bah, L'ISF rapportait 5 milliards,
Vous verrez ce qu'il en pense. Bon, revenons à la question.
Pas trop long, parce que je veux qu'on...
J'ai fini. je conclue.
Ah bon ?
Je dis que c'est deux questions liées, mais indépendantes. Dans tous les cas, une réforme de la fiscalité, j'ai pas dit un alourdissement de la fiscalité, etc. Une réforme de la fiscalité, pour la rendre plus juste et plus équilibrée. Et je pense qu'à ce moment-là, la question des déficits se présentera de manière un peu différente.
On a encore un impôt quand même sur le patrimoine, et on a un impôt sur le revenu, il est progressif quand même. On peut pas considérer qu'il n'est pas progressif. Il y a un marginal.
Oui, bien sûr, mais enfin, vous savez comme moi qu'on a cessé de réduire cette progressivité et que l'impôt sur le patrimoine, il a été réduit à une peau de chagrin.
Donc, pas peau de chagrin, il a été supprimé. On a retiré les flux.
On n'a pas les mêmes évaluations et j'ai bien l'impression que je suis pas le seul à avoir celles que j'ai.
François Eckhall, c'est 3 milliards l'IFI.
3 milliards.
Oui. Pardon ?
3 milliards, oui.
Et c'était 5 avec l'ISF. C'est pas quand même peau de chagrin.
La différence.
Moi, je serais très très favorable.
Par rapport à quoi vous comparez, à quelle période vous comparez.
Je compare à la période où l'ISF existait juste avant 2017.
Mais si on parle avant Macron, après Macron, oui. Mais si on raisonne, je répète, sur la période des Trente Glorieuses, dont je répète qu'elle a été la meilleure période de l'histoire du capitalisme, on n'est plus du tout dans ces proportions-là. Alors si vous comparez du marginal par rapport à du marginal, oui. Bon.
Et c'est le pas marginal. Ça que je parle. Bon, allez. Mais moi, je serais tout à fait favorable à un grand débat sur la remise à plat de la fiscalité et de se dire est-ce qu'on change le crédit d'impôt recherche ? Est-ce qu'on fait ça sur les transmissions ? 5 banques perquisitionnées, Nathalie Janson, le parquet national financier des soupçonnes de fraude fiscale, en ayant permis à des investisseurs étrangers non résidents qui détiennent des actions d'entreprises cotées françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes au travers de cette pratique qui s'appelle le koum-koum. L'investisseur cède ses titres au moment du versement des dividendes et du prélèvement de l'impôt à un banquier. Il lui cède la propriété et quand la période fiscale est passée, il reprend la propriété de ses titres et il verse une commission à son banquier. Comment vous regardez l'histoire ? Est-ce que là, on est devant un gros scandale bancaire qui a été déjà dénoncé par 16 médias internationaux en 2018 ou est-ce qu'on va se retrouver devant un débat pour savoir si koum-koum, c'est légal ou pas légal ?
Oui, non, scandale bancaire, je ne pense pas, parce qu'effectivement, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on ne connaissait pas.
Ah non, mais qu'on connaisse, voilà. Oui. Mais...
Et voilà, ça fait partie. Enfin, ça ne fait que ajouter de l'eau au moulin. Je pense qu'on on favorise, enfin, on donne des incitations à vouloir contourner le système quand le système a des complexités. Et en fait, on n'aurait pas ces histoires d'imposition double ou triple sur le capital selon où on est. Eh bien, peut-être que on serait pas à avoir des banques qui proposent ce genre de service qu'en somme parce qu'ils payent quand même pour ce service.
Oui, ils payent.
Donc
pas
ils échangent, voilà, oui, oui. Ils échangent un paiement d'impôt contre un paiement de service.
Mais donc c'est pas de l'argent qui va dans les caisses de l'État.
Exactement.
Mais qui va dans les caisses des banques.
Oui.
Alors ce que vous me dites, parce que moi je suis pas un spécialiste de koum-koum, je dois avec la séquence législative LREM à l'époque que rappelait Benjamin, moi elle m'a un peu échappé là sur ce que les députés avaient décidé en 2018. Mais en fait ce système là a été mis en place pour éviter que des non-résidents se retrouvent imposé de plusieurs fois.
Oui.
Ah oui, c'est toujours le problème de la multiple imposition. Oui.
Donc effectivement, après c'est des voilà, c'est alors est-ce qu'effectivement c'est vraiment un scandale. Moi je ne suis pas non plus spécialiste à ce point-là de ce type particulier d'arrangement, mais on est face à une complexité du système fiscal et à une façon de continuer à rendre la détention d'actions par des investisseurs internationaux attractive avec un système d'impôt qui n'est pas toujours très agile ou flexible par rapport à la nationalité de celui qui détient les actions.
Alors, pour le parquet national financier, visiblement, c'est clairement illégal, puisque les banques risquent un redressement fiscal qui dépasserait 1 milliard d'euros, également des amendes pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée qui peuvent atteindre 50% du montant de l'impôt qui n'a pas été payé, et puis des peines de prison même pour des responsables. Il y a un avocat fiscaliste allemand qui a pris 8 ans à ABN AMRO et sous le coup d'une enquête pénale aux Pays-Bas. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment de la fraude et des gens qui veulent contourner l'impôt, ou est-ce que finalement on en arrive là par des systèmes fiscaux si complexes qu'on finit par faire une sorte de niche qui est alors après, ça fait rire Benjamin. Pour vous, on est dans la fraude.
Je ne suis pas capable de
trancher juridiquement.
Je pense irrésistiblement à Molière. C'est quand on dit complexité, etc. Bah, je pense à Molière, je pense à comme joliment ces choses-là sont dites.
Oui, hein, oui.
D'amour, beaux yeux, d'amour me font, marquise, vos beaux yeux. On est à peu près là. Parce qu'il y a pratiquement aucun doute. C'est-à-dire que les enquêtes, les accusations qui ont
tapez
été faites...
Tapez pas sur la table, Benjamin, ça fait des boum-boum.
Pardon. Qui ont été faites en 2018 ont clairement établi qu'il s'agissait de pratiques frauduleuses. Un certain nombre de pays, l'Allemagne, la Finlande, ont pris des dispositions pour rendre cela impossible. La France était supposée l'avoir fait à partir d'une proposition de loi qui a été validée par le Sénat. Je vais vous lire un petit extrait d'un de nos confrères, Le Monde. Après les révélations du Monde en 2018, le Parlement avait pourtant voté une réforme censée mettre fin à la pratique et à ces pratiques à la frontière de la légalité. Au prétexte d'un nettoyage juridique, la majorité macroniste avait établi le dispositif en interdisant que les montages les plus simples. Sans surprise, les grandes banques n'ont eu aucun mal à contourner ce nouvel obstacle après l'entrée en vigueur de la loi en juillet 2019.
Donc ça signifierait qu'on est dans une zone grise ?
Non, on n'est pas dans une zone grise. On est dans une volonté politique d'une majorité qui a modifié la loi pour permettre de revenir dans ce qui est prétendu une zone grise, mais qui avait été dénoncée comme frauduleuse dès cette époque-là. Et il y avait les dispositions qui avaient été prises. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on joue sur les mots, mais à partir du moment où on modifie un texte de loi pour rendre possible ces pratiques, bon, il y a plus qu'un problème. Il y a plus qu'un problème. Donc voilà, je suis, il s'agit pas de petites sommes, hein.
Il s'agit
de 35 général, milliards d'euros.
Mais attendez, 35
pour la France.
On nous explique qu'il y a un redressement d'un milliard possible.
Ouais. Non, mais il s'agit de sommes qui portent sur ça. On va voir les redressements. Mais il s'agit de sommes qui portent sur 35 milliards d'euros et dans lesquelles, excusez-moi du peu, sont concernés la BNP, la Société Générale, Natixis et le Crédit Agricole.
HSBC et Exane.
HSBC et Exane. Ça c'était en 2018.
Ah, 2018.
Ça, en 2018.
Là, il y a HSBC, Exane et les autres que vous avez cités.
Depuis, ils ont fait quoi. Donc, si vous voulez, moi, je pense que ça pose des problèmes non seulement liés aux questions dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire quel est notre système fiscal et est-ce qu'il permet des rentrées de manière régulière pour etc. Mais ça pose aussi un problème moral. Ça pose aussi le problème de quel est le pouvoir pris ou donné. Hein, à travers des modifications de la réglementation ou de la non-réglementation aux puissants pour qu'ils puissent s'enrichir. Il y a un vrai problème moral.
S'il y a fraude, il y aura condamnation.
Parce que en 2018, il y a eu tout a été mené, la législation a été prise, elle a été modifiée. Donc ne me dites pas s'il y a fraude, il y a eu condamnation. Tout est encore ouvert. Tout est encore possible. Et c'est bien ça le problème.
Donc, dans notre discussion, on n'arrive pas à déterminer la zone grise, comme je disais.
Mais on l'a fabriquée,
Dites qu'il y a une zone grise.
Dites qu'il y a un ensemble, il y a la majorité présidentielle
d'accord.
qui a fabriqué cette possibilité.
Bon. Okay.
C'est de ça qu'il s'agit.
Si ça a été fabriqué, si ça a été acté, ça veut dire qu'il n'y a pas eu... Bon,
oui.
Nathalie.
De toute façon, on verra bien. Mais
Nathalie Janson.
On peut... puis, de toute façon, dans ces histoires-là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si, effectivement... il n'y a pas ce dispositif en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité de réduire, en fait, de ne pas payer cet impôt, bah peut-être qu'effectivement, il y a certains investisseurs qui prendront différentes décisions quant au portefeuille qu'ils détiennent, c'est tout. Enfin, voilà, donc c'est hyper compliqué de savoir après ce que ça donne, même si j'entends bien, enfin, je veux dire, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que les banques ont comme activité éventuelle d'aller voir, de faire des montages pour éviter l'impôt. Bon, ça, de toute façon, ça fait partie de la pratique de l'optimisation fiscale, donc ça fait partie malheureusement de ces mécanismes, mais c'est vrai que d'un autre côté, de toute façon, c'est le fait que ça n'existe plus, si jamais ça va avoir un impact sur la composition des portefeuilles, voilà, tout simplement.
Après, si c'est de l'optimisation fiscale, on peut trouver ça pas moral, mais ça peut être légal. Si c'est de la fraude,
ça devient de l'optimisation fiscale. Je vais répéter une troisième fois.
Non, mais
à partir du moment où on a fabriqué, faut arrêter de jouer à cache-cache.
Je ne joue pas à cache-cache, mais quelque chose qu'on fabrique pour le permettre, à mon avis, ne tombe plus sous le coup de l'illégalité.
Donc l'opprobre ne tombe pas sur les banques, elle tombe sur la majorité qui a fabriqué cette ambiguïté.
Okay. Non,
elle est double.
Je suis
ça ne l'annule pas.
J'entends.
Ça la dédouble.
J'entends. Mais moi, ce qui m'intéressait en découvrant tout ça, c'est de savoir si ça relevait des tribunaux ou si ça relevait du ressenti et de la morale. François Eckhall, par rapport à ce qu'on vient de se dire.
Moi, j'ai vu ça hier dans la presse, en effet. Et quand je vois ce genre de choses, je me dis, bon, moi, j'aimerais comprendre, d'un point de vue fiscal, quel est le problème. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps hier, parce que je me suis occupé plutôt du compte des administrations publiques, mais c'est vrai que j'ai pas compris. Alors, ce que j'ai compris, c'est ce que tu as expliqué, en fait. C'est-à-dire que des détenteurs d'actions, la veille du jour du versement du dividende, mais moi, ce que je me dis, à ce moment-là, lorsqu'ils vendent leur action la veille du jour du versement du dividende, ils sont taxés sur la plus-value.
Non, ils vendent pas, ils mettent en pension, si j'ai bien compris.
Moi, j'ai compris qu'on cédait la propriété.
Je comprends pas bien.
En tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est que si vraiment il y a vente, plus cher, il le ferait pas.
Si vraiment il y a vente,
c'est le seul truc qu'on peut dire.
Il y a taxation de la plus-value et la plus-value est d'autant plus élevée que le dividende doit être versé le lendemain. Et aujourd'hui, en tout cas en France, depuis le prélèvement forfaitaire unique, taxation des dividendes, taxation des plus-values, c'est quasiment pareil. Donc quel est l'intérêt de la manœuvre? Alors, j'ai probablement raté quelque chose.
Non, mais
j'ai raté quelque chose.
Ah, oui,
mais je dis aussi, c'est pas forcément simple.
Mais voilà. Dans cette émission, on est là pour essayer d'apporter des réponses un peu concrètes, opérationnelles, quelquefois techniques à des sujets provoqueront probablement dans l'opinion des réactions un peu immédiates, de rejet, de condamnation. Mais comment ça fonctionne? Voilà. Et effectivement, j'avais pas du tout vu cet aspect que des plus-values au moment de la cession temporaire, théoriquement, passent
par. Si c'est vraiment une cession,
bon, oui. Bon, on va suivre ça.
De toute façon, il y a un truc arithmétique. Si ça leur rapportait pas, elles ne prendraient pas ce risque de fraude.
Mais quel est
le résultat de l'opération, il est connu à l'avance.
Bon, Nathalie Janson.
On ne peut pas introduire de la complexité là où il n'y en a pas.
Parce que ça peut être aussi sur un petit écart de taux, et donc en fait ça veut dire aussi que les enjeux financiers finalement sont pas,
ça mesure pas en milliards d'euros. Ça joue sur 140 milliards en Europe.
En 20 ans pour 10 pays. En 20 ans pour 10 pays.
Voilà, mais j'aimerais comprendre.
C'est pour ça que l'histoire des 35 milliards en France, je...
Ah mais ça c'est les sources de la Cumex, hein. C'est disponible en plus sur Internet. Hein.
Oui.
J'en appelle au fact-checker, il n'y a pas de souci.
Oui, mais de toute façon, là, le sujet commence, là, on va suivre tout ça. Les enquêtes préliminaires datent de décembre 2021. Bon, je ne vais pas revenir avec vous, Nathalie Janson, sur SVB, Crédit Suisse, Deutsche Bank, effet domino, début d'une nouvelle crise financière. On l'a pas mal traité hier, notamment avec Jean-Pierre Petit. Mais j'ai l'impression qu'on rentre à nouveau dans un nouveau monde de banquiers centraux. Où finalement, on a un banquier central qui a deux robinets, de l'eau chaude et de l'eau froide, qui va allumer les robinets qu'il faut au bon moment. Et donc, en fait, c'est le seul acteur au monde qui peut tout faire, qui a 25 bras et 3 têtes, et qui peut se permettre de monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, tout en arrosant de liquidité le système financier, voire en reprenant des obligations publiques si les États sont en difficulté. C'est ça, la vraie vie ?
En tout cas, c'est le chemin qu'on semble prendre, effectivement, avec ces récents épisodes, hein, puisque on a, en fait, c'est presque la Banque d'Angleterre qui l'a ouvert, hein, l'épisode, qu'en septembre, quand elle a, en effet, décidé de, en même temps, continuer ses augmentations.
C'est le en même temps des banquiers centraux,
mais de quand même aller aider ceux qui en avaient besoin, donc à l'époque, c'était les assureurs. Eh bien, on voit qu'à l'occasion de la crise bancaire américaine, en fait, la Fed a fait la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a tout de suite. Alors déjà, elle a eu plusieurs zones d'intervention, c'est-à-dire qu'elle a été calmée du côté des déposants pour être sûre que tout aille bien. Donc ça, c'était la garantie, l'étendue de la garantie des dépôts.
Au-delà des 250 000 $,
parce que on a eu cette fois-ci, il faut quand même le préciser. C'est ce qui était particulier, c'est que pour une fois, ça existe assez peu dans le paysage bancaire, mais les problèmes bancaires ont commencé à être sur une banque dont les déposants étaient majoritairement non assuré, ce qui est assez rare, il faut bien le préciser. Dans les banques traditionnelles que l'on connaît, nous, en Europe, on n'a pas cette spécificité. Mais néanmoins, ça a été la décision qui a été prise. Et d'un autre côté, pour être sûr que d'autres banques, parce que du coup, d'autres banques ont été chahutées, donc pour éviter qu'effectivement ça prenne des proportions trop importantes, la Federal Reserve a décidé d'ouvrir une facilité en fait, de liquidité, qui était accessible à toutes les banques, qui était assez massif, puisqu'elle a dit, eh bien, non seulement j'ouvre à beaucoup de titres ma facilité, mais je l'ouvre sur longtemps, jusqu'à un an, et surtout, je l'ouvre en rachetant au prix
d'acquisition,
en fait, les titres.
Et pas au prix de marché.
Donc là, ça veut dire qu'effectivement, banque, elle peut aller mettre ces titres qui sont, en plus, ces titres, le spectre s'est agrandi. Donc ça veut dire qu'effectivement, si elle estime que des titres, finalement, seront bien mieux repris là, puisque du coup, il n'y a pas de décote qu'en tentant le marché. Donc, sans grande surprise, la facilité a été très utilisée, parce qu'on a battu des records. Il y a eu plus de 150 milliards en l'espace de quelques jours.
Une semaine, 165 milliards.
C'est 165 milliards exactement, effectivement. Bon, effectivement, là, on se dit, alors, on la voit, le pic, si vous regardez le bilan de la Fed, on voit ce pic arriver alors qu'elle était en décroissance de bilan. Donc, on se dit, mais ça veut dire quoi? Alors, effectivement, les taux sont quand même élevés, donc ça veut dire que pour l'accès au crédit, on le freine d'une certaine façon, puisque les taux sont toujours plutôt à la hausse. Mais d'un autre côté, on offre cette facilité de crédit aux banques. Donc, effectivement, il y en a qui pensent que c'est la bonne voie. C'est cette voie-là qu'il faut emprunter parce qu'il faut faire un équilibre entre la politique monétaire et la stabilité et qu'il y a maintenant un grand enjeu, beaucoup plus important qu'avant, sur cet enjeu de stabilité. Il faudrait donc qu'il soit pris en compte dans les mandats beaucoup
plus
de façon explicite.
C'est vrai. J'ai tendance à penser que c'est vrai.
Bah, en tout cas, même aujourd'hui...
Si ça, même si ça sent l'aléa moral à plein nez,
voilà.
j'ai l'impression que c'est
en fait, on est, je pense qu'on est dans un grand questionnement aujourd'hui de savoir effectivement où on en est. Est-ce qu'on va effectivement dans un rôle de banque centrale qui finalement est un assureur tout risque et je crains qu'on ait quand même pris cette voie parce que les, bah, voilà, ce qui a été décidé là avec aussi Credit Suisse et UBS, c'est quand même pareil. On se demande comment, quel signal on envoie pour la responsabilisation des acteurs, quand même. Il est clair. Et la même chose aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça questionne beaucoup parce que cet aléa moral, il avait été au cœur des discussions de 2008. On s'était dit bon, voilà, il y a des règles qui sont fixées, il y a la réglementation est là. La réglementation effectivement est là, mais à quoi elle sert si le signal, c'est de dire qu'après tout, la banque centrale est assurance sur risque. Donc on a l'impression d'être dans un peu un raisonnement circulaire. Mmh. Or, il y en a qui sont moins pessimistes, qui disent mais non, c'est comme ça que ça va mieux marcher. Voilà, moi j'ai un peu de doute. Enfin, le fait qu'on ne responsabilise quand même pas suffisamment les acteurs qui sont censés gérer du risque, ça me pose quand même des questions.
Un mot, je crois que Nathalie a presque tout dit. Un mot, Nathalie, Benjamin Correa, si vous voulez.
Oui, je pense qu'elle a presque tout dit. Effectivement, bon, il y a deux choses quand même. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que dans le cas des banques californiennes, en particulier de celles qui servaient aux capitaux risqueurs, elle était hors de la réglementation.
Oui, hein. Ça c'est un choix politique trumpien 2018.
Mais
on est d'accord là.
Il y a déjà là un premier vrai problème.
Ça change pas, vous dites.
Non, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Oui, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Je suis assez d'accord parce que
elle est victime de sa spécialisation.
Oui.
Donc, en fait, la vraie question qui est posée, oui, c'est bien celle-là. Mm. C'est celle de l'aléa moral et c'est celle de que signifie prendre des risques aujourd'hui, hein, quand on sait que de toute façon les banques vont tout éponger. Sur un autre plateau, moi, j'ai participé, j'ai discuté avec un entrepreneur français qui travaille en Californie, qui est un start-upper.
Oui, qui était client de SVB, sans doute.
Voilà.
On l'a vu dans Le Parisien.
Voilà.
Il a pensé quelques heures qu'il avait tout perdu.
Voilà. Il a pensé quelques heures qu'il avait tout perdu. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous restez en Californie ?» il a dit « Je reste en Californie parce que ici il y a un esprit entrepreneurial, il y a le goût du risque, etc.
Oui. »
Ah bah oui, bien sûr.
Ah bah oui.
Quand il y a la banque centrale qui revient par derrière pour ramasser toutes vos conneries.
Il l'a pas fait dans cet esprit.
Passez-moi l'expression. Non mais
il l'a pas fait dans cet esprit. Il sait qu'il y a un écosystème de levée de fonds en Californie qu'il n'y a pas ici.
Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais quand, en plus, il y a un assureur qui s'appelle la Fed et qui vient par derrière et qui ramasse toutes les conneries que vous avez pu faire, on ne voit vraiment pas pourquoi
Benjamin,
vous
pas c'est pas forcément non. que des conneries.
Hein.
Ce ne sont pas ces banques qui ont mis 400 points de base en l'espace d'un an sur les taux d'intérêt, quand même.
Non,
quand même un peu ça le déclencheur aussi.
Oui, mais si elles ont mis 400 points de base, il y a aussi quelques raisons. Vous auriez voulu qu'elles fassent rien.
On est coincé
parce que en même temps,
c'est pas de l'incurie des banquiers.
Moi, je vais pas vous dire qu'il fallait rien faire. Bien entendu, mais on est en pleine aléa morale.
Oui, mais encore une fois, on est dans cette situation notamment parce qu'il y a eu des resserrements de politique monétaire très violents, très rapides. Alors après, on peut considérer que le bilan de SVB était beaucoup trop concentré exclusivement en obligations du Trésor américain.
Oui.
Bon, ok. Mais on n'est pas devant des... c'est pas les mêmes circonstances que ce qui s'est passé en 2008, où là, franchement, certains auraient dû finir devant les tribunaux.
Bien sûr. Oui.
4 minutes, hein, donc allez-y, Nathalie.
Non, juste très rapidement, juste pour SVB, en fait, elle a pas été. Ils n'ont pas subventionné de deal. C'est pas comme le Crédit Suisse et UBS. Hein. Elle vient d'être rachetée par une banque régionale.
C'est simplement
qu'ils ont été effectivement garantir ceux qui étaient. Parce que la majorité n'était pas assurée. En fait, c'est cette action-là qui pose quand même problème, puisqu'on était censé avoir des déposants non assurés qui surveillent leur banque. Ouais. Donc c'est ça en fait qui est le message compliqué qui a été envoyé. C'est-à-dire que ceux qui sont censés surveiller s'ils ne surveillent pas, effectivement, il y a un questionnement sur ces déposants.
François Eckhall, là-dessus, si vous voulez rajouter quelque chose.
Je vais juste faire un lien avec mes sujets de prédilection.
Allez-y.
En effet, les banques centrales sont de plus en plus des assureurs tout risque pour...
Normalement, ils étaient prêteurs en dernier ressort, maintenant ils sont devenus assureurs.
Non seulement pour les banquiers et pour les assureurs, mais aussi pour les États, avec le même problème d'aléa morale.
Il y a un
aléa morale. Et pour moi, le principal sujet de la dette publique française ou de dette publique dans la zone des autres pays de la zone euro, Italie, etc., c'est celui-là. C'est que fait la BCE, que fera la BCE si on se retrouve dans une situation comme celle du Royaume-Uni à l'automne,
tout d'un coup. Comme pour les banques.
Les titres d'un État sont attaqués, etc. Qu'elle fait?
Vous savez très bien
qu'elle intervient comme assureur en dernier ressort.
Évidemment.
Et dans quelles conditions? Pour moi, tout le sujet, il est là.
Et le quantitative easing fera partie du vocabulaire.
Elle l'a pas fait pour la Grèce, hein? Elle l'a pas fait pour la Grèce.
On a obligé la Grèce parce qu'il y avait certains voulaient qu'on lâche la Grèce complètement. Donc on a choisi une solution intermédiaire.
Le régime qu'on a fait subir et les conséquences jusqu'à aujourd'hui en termes ferroviaires, par exemple.
Ils ont préféré ça. À l'abandon total.
À l'arrivée, quand même, le système européen dans son ensemble a quand même bien soutenu. Alors, c'était pas du quantitative easing à l'époque, mais bon, quantitative easing, c'est maintenant dans le langage courant.
Presque. Voilà. Oui.
Le million a disparu, il a été remplacé par le milliard.
Voilà.
Et la politique monétaire de surveillance des prix a été remplacée par quantitative easing et quantitative tightening, un coup l'un, un coup l'autre. Je coupe le son, je remets le son. 2 minutes. Oh. Bon, Goldman Sachs. 1/4 des emplois des grandes économies menacées par ChatGPT. Ça vous inspire quoi comme réaction? Nathalie Janson.
Alors, je pense que ça fait partie de cette espèce de mythologie. À chaque fois qu'on évoque l'innovation technologique, on va supprimer
c'est
des
spécial,
emplois.
Là, c'est une intelligence. Voilà, là, une intelligence.
Exactement. Là, ce qui est spécial,
c'est un robot qui remplace une action dans une usine d'automobile.
Ça procède quand même de la même idée. C'est-à-dire que l'innovation va être l'ennemi, en fait, de l'homme. Bon, je pense que c'est légitime de faire ces travaux, parce qu'il faut bien essayer de se projeter. On est quand même au début. De cette vague d'intelligence artificielle. Bon, un bon début, c'est-à-dire que là, on est dans une phase où, effectivement, on voit vraiment ce que ça peut produire. Et maintenant, il faut laisser l'intelligence humaine répondre à l'intelligence, enfin, à cette innovation technologique. Donc, j'ai assez confiance dans l'intelligence humaine pour continuer à avoir des emplois qui, effectivement, devront domestiquer cette intelligence artificielle, ou en tout cas, la mettre au service de l'homme. Donc, je ne suis pas trop inquiète, mais néanmoins, oui, je comprends. Ça veut simplement dire que les emplois de demain, on ne les connaît pas.
Ouais.
Voilà.
Si c'était ChatGPT qui animait cette émission, on ne se serait pas fendu la pêche sur les déficits publics, par exemple. ChatGPT ne rit pas là-dessus. Benjamin, vraiment un mot, 40 secondes.
Oui. Deux remarques. Bon, la première, c'est qu'il faut se laisser un peu de temps pour voir quel sera l'effet.
On est bien d'accord. On est bien d'accord.
Voilà. C'est bien que l'alerte soit faite.
C'est là où est la raison d'Athalie sur la mythologie.
Alors après, la deuxième remarque, elle est un peu plus subtile, si je peux dire. C'est que je ne doute pas que ChatGPT, au fur et à mesure qu'il s'améliorera, etc., deviendra un outil qui pourra se montrer très utile. La crainte que j'ai, c'est est-ce qu'on va faire comme pour les algorithmes des traders? Est-ce que ça va remplacer l'intelligence humaine et la décision humaine? Je crains que dans un certain nombre de cas, on arrive là. Voilà, donc je pense qu'il faudrait faire cette alerte-là aussi.
On a fini, vous êtes privé de ChatGPT, François Eckhall. Désolé.